Le grand entretien de France Inter. Bonjour Fariba Chtroudi.
Bonjour à vous.
Vous êtes journaliste, écrivaine iranienne. Vous retournez chez vous en Iran dans quelques jours où vous allez préparer votre prochain livre. Fariba Chtroudi, depuis 24 heures, votre pays, l'Iran, vit sous sanctions commerciales américaines. Elles étaient annoncées depuis le 8 mai dernier, quand Donald Trump avait dénoncé de façon unilatérale les accords sur le nucléaire iranien. Est-ce que ces sanctions ont déjà pesé sur la vie concrète des gens, dans la vie quotidienne, dans le fonctionnement de la vie iranienne? Est-ce que ça se ressent?
Oui, bien sûr. D'abord, c'est pas depuis 24 heures, comme l'a dit votre collègue, comme l'a dit Anthony, c'est depuis 40 ans.
Oui, c'est durci depuis 24
absolument,
heures.
Absolument, ça s'est durci et ça risque de se durcir encore. Bien sûr, ça a influé ça influe la vie quotidienne. Je veux dire, chaque tweet de Monsieur Trump, influe sur le bazar, sur le change dollar rial. Et effectivement, la vie, depuis que je suis partie, ça fait à peine un mois de Téhéran, quand j'appelle les amis là-bas, la vie, c'est 5 fois plus cher que quand j'ai quitté.
Le bazar, donc, c'est le grand marché de Téhéran. C'est en quelque sorte le cœur battant de l'Iran. Justement, au bazar, qu'est-ce qu'on dit?
C'est le pouls.
Comment est-ce qu'on commerce? Vous dites que les prix ont été multipliés par 5.
Mais écoutez, pour la première fois, il y a eu effectivement le bazar a fermé, alors que le bazar, c'était réellement les bazaris, qu'on dit, les gens du bazar. Donc ce commerce traditionnel, le bazar a soutenu la révolution et ils étaient pro-communistes depuis le début de la révolution. C'est la première fois que le ras-le-bol à cause des problèmes économiques, mais pas simplement, il y a vraiment d'autres problèmes, on en parlera.
Oui, le bazar est un univers assez conservateur,
on parlera totalement
de ces révoltes contre le régime. On va rappeler tout de même ce que sont ces sanctions. Les États-Unis désormais pénalisent les entreprises qui vendent des logiciels, des métaux précieux, des automobiles et des pièces détachées en Iran. Et puis inversement, il y aura des taxes sur les produits que l'Iran essaye de vendre à l'étranger. Le safran, les tapis, les pistaches, le caviar. La monnaie iranienne a perdu 60% de sa valeur, le rial, en quelques semaines.
Oui, mais vous savez, nous vivons, comme disaient les Cubains d'ailleurs quand j'étais à Cuba, nous vivons en dollars. Alors, c'est tout le paradoxe, exactement. Mais là, bon, il y a une part des sanctions américaines. Il y a effectivement, comme eux, ces messieurs disent, les ennemis de l'extérieur. Mais il y a l'ennemi intérieur aussi, il faut en parler. Il y a la corruption, il y a le fait que, comme je l'ai dit, et c'est pour la première fois depuis le gouvernement Rouhani, il a eu effectivement cette audace et cette volonté de transparence pour la première fois depuis la République islamique. Le budget de l'État a été
rendu public,
absolument. Et quand on voit, malheureusement je n'ai pas les chiffres en tête, mais ce qu'ils allouent aux officines cléricales et les mosquées, la propagande
au clergé,
c'est le budget est je pense 30 fois, si je ne m'abuse, plus que le budget l'éducation nationale ou la culture.
Sans compter le budget militaire qui va d'abord au passe d'Aran, c'est-à-dire aux gardiens de la Révolution, ce qui fait beaucoup grogner dans l'armée régulière.
Mais bien sûr. Et puis la base de l'armée des gardiens de la Révolution aussi. Il faut se dire qu'aujourd'hui, la base, partout, faut pas généraliser, vous savez, j'essaye d'être assez précise. Mais la base de la société iranienne dans tous les secteurs, que ça soit quand je vais dans les administrations, quand je vais à l'université, la population n'en peut plus. Et effectivement, les contestations sont à tous les niveaux. Ce qui ne veut pas dire, et ça, c'est comme le disait Monsieur Béranger, ce qui ne veut pas dire du tout que la population voudrait d'une intervention étrangère.
C'était ma question, Fariba Chtroudi, et c'est pour ça que c'est intéressant de vous entendre ce matin sur France Inter, parce que vous êtes iranienne et vous vivez dans ce pays. Vous nous le racontez. Comment sont perçus les États-Unis? Est-ce que le régime en profite pour se faire une espèce de virginité sur le retour du grand Satan? Est-ce que les dirigeants peuvent profiter de cet événement?
Ils n'ont plus à jouer ce jeu-là.
À scénariser.
Je veux dire, non, à scénariser. Parce que la population, surtout cette jeune génération, qui est quand même 60% de la population iranienne, est une jeunesse extrêmement éduquée, extrêmement adulte et
connectée.
Et surtout, la conscience politique de cette jeunesse est absolument fantastique par rapport à notre génération, disons 68-ard, quand je le dis, enfin révolutionnaire, etc. Cette jeunesse n'est pas dupe. N'est plus dupe
de son régime.
De son régime et des États-Unis et des intentions du grand Satan ou du petit Satan. Personne ne croit en Iran que l'extérieur va se. Vous voyez, quand ils parlent au nom du peuple iranien, ça fait marrer les Iraniens ou ça leur fait grincer les dents.
Oui, donc le grand Satan américain ou le petit Satan israélien, c'est de la rhétorique, mais ce n'est plus dans les consciences.
Du tout, c'est simplement des superpuissances qu'ils veulent effectivement défendre leur intérêt. À la rigueur, ça, ils peuvent le comprendre. Mais de cette façon, surtout avec cette injustice, ils sentent une injustice terrible, les Iraniens, en ce moment. Vous savez, ils ont beau être... les Iraniens mènent sur deux fronts, deux combats extrêmement importants. Le premier combat, c'est le combat pour la démocratie à l'intérieur, en disant, nous sommes les seuls à vouloir changer et nous le montrons. La société civile le montre. Je veux dire, les Iraniens sont debout, ils payent le prix qu'il faut payer. On a des gens fantastiques, des femmes admirables comme Nasrin Sotoudeh qui est encore en prison aujourd'hui et qui défend les prisonniers politiques, qui défend les femmes qui ne veulent pas porter le voile, etc. Je peux donner 10 000 exemples comme ça.
Oui, mais attardons un instant sur ce mouvement, les femmes qui tombent le voile.
Oui, on reviendra dessus, si vous permettez. Il y a ce combat-là, c'est-à-dire les Iraniens disent, c'est à nous de mener ce combat. Vous savez, vous avez dit, je suis une opposante contre ce qui est absolument, je viens d'une famille humaniste, je ne peux pas tolérer certaines choses en Iran, je le dis haut et fort, à l'intérieur de l'Iran, en prenant les risques. Je le dis ici, je rentre bientôt dans une semaine là-bas, je le dis là-bas également. Et je ne suis pas la seule. Ne croyez pas, je ne suis pas en train de me vanter. Il y a des milliers et des milliers d'Iraniens qui osent le dire haut et fort, que ce soit les cinéastes comme Jafar Panahi, ne sort pas de l'Iran. On lui a dit, mais allez, plateau, il ne sort pas, il fait ses films là-bas. C'est une société admirable.
Qui t'a filmé au téléphone portable.
Absolument, absolument. Et je tiens à le dire, au sein de cette administration, j'ai rencontré des gens, y compris des flics, des policiers admirables, honnêtes, qui font leur travail. Donc, vous voyez, c'est pour ça quand je vous dis, il y a la base de la société et il y a la tête. Les corrompus, ceux qui volent, ceux qui blanchissent de l'argent, ceux qui n'ont rien à faire de l'avenir du pays. Mais au sein du gouvernement Rouhani, il y a également des gens qui sont conscients, qui essayent de faire
des réformateurs de l'intérieur.
Exactement. Donc, alors, il y a ce combat des Iraniens et effectivement entre le choix du moindre mal, ils disent on défend encore les réformateurs, et il y a le combat de dire à l'extérieur on n'est pas dupes, vous n'allez pas venir nous libérer, on a vu comment vous avez libéré l'Irak, on a vu comment vous avez libéré la Libye, on ne veut pas de ça. Et c'est là où la société iranienne est effectivement une exception, la culture millénaire, le fait que en moins d'un siècle, l'Iran a eu quand même 3 révolutions dans la région, comme vous le savez. Peut-être le grand public ne le sait pas. Mon grand-père a été un des acteurs de la révolution constitutionnaliste en Azerbaïdjan, et à côté de lui, des milliers d'autres gens. Donc, vous voyez, un pays qui a ce passé, vous ne pouvez pas le duper avec « on va venir vous libérer ». Non, ça va.
Vous évoquiez tout à l'heure la chronique d'Anthony Bélanger, juste avant le début de notre grand entretien. Fariba Ashtroudi, il évoquait les relations commerciales de l'Inde et de la Chine avec l'Iran, qui sont des pays qui n'ont pas peur, eux, se coltiner les réactions des États-Unis. Est-ce que l'Iran est à la recherche, entre guillemets, d'une troisième voie avec ces pays, peut-être avec d'autres de ces grands voisins, puissants voisins?
Certainement. De toute façon, l'Iran devra trouver son chemin, mais néanmoins, l'attaque des États-Unis, si ça continue comme ça, va faire très mal. Ça, il ne faut pas se duper.
Alors, très mal à qui et comment?
Très mal à la population. Et donc,
au niveau de sa vie quotidienne.
Absolument. Et là, c'est le. Vous savez, je suis peut-être naïve. J'ai une forme de naïveté qui veut que, un jour ou l'autre, il faut comprendre qu'on ne peut pas négliger la population. Je le dis depuis 2 ans, depuis 3 ans, depuis toujours, mais surtout ces dernières années. Le gouvernement et l'ensemble du régime iranien ne comprend pas qu'il faut maintenant s'occuper de sa propre population, mais effectivement d'assainir ce qui ne va pas à l'intérieur. Là, effectivement, le risque, c'est que le ras-le-bol généralisé peut déborder.
Et d'ailleurs,
il peut y avoir des débordements.
D'ailleurs, vous parliez de la corruption.
Totalement. La corruption, vous vous souvenez quand il y a eu les émeutes au mois de janvier, février, Rouhani à juste titre a dit les gens ne veulent pas simplement, ce n'est pas simplement une question d'économie, c'est également une question des libertés, c'est une question d'ouverture, c'est-à-dire laissez ce gouvernement aller vers l'ouverture.
Oui, et d'ailleurs, Rouhani, par exemple, a limogé le gouverneur de la Banque Centrale iranienne.
Absolument.
Veut quand même donner des gages.
Non, mais totalement. Là, pour le moment, je vois quand même la réserve et une certaine sagesse, entre guillemets. L'Iran joue pour l'instant, les Iraniens, dans l'ensemble, jouent l'apaisement mais cet apaisement vis-à-vis de l'extérieur, pour le moment, le guide suprême n'a rien dit, c'est lui qui décide de tout.
Il décide de tout, il est plutôt bienveillant avec Monsieur Rouhani.
Exactement. Pour le moment, ils ont. Vous savez, quand le bateau risque de couler, de toute façon,
on fait corps.
Mmh. On fait corps et la population fait corps pour l'Iran. Là, je le dis, il fait corps pour l'Iran. Donc, mais la situation est très dangereuse. Mmh. Alors, vous parliez effectivement d'autres. Oui, la Chine peut jouer un rôle extrêmement important. La Chine est riche, l'Inde, idem, mais surtout la Chine. Néanmoins, il faut également se méfier parce que la Chine, l'Inde, la Russie, eux aussi, ils ne pensent qu'à leur intérêt en premier lieu. Donc, vous voyez, l'Europe devrait jouer un rôle plus important. Comment, je ne le sais pas, mais c'est important que l'Europe essaye son possible.
Fariba Achtroudi, on va aller au standard de France Inter où les auditeurs nous attendent.
France Inter, le 6-9 de l'été. Intervenez.
Vous intervenez au 01 45 24 7000. Bonjour Omar.
Oui, bonjour.
On vous écoute Omar.
Oui, en fait, moi je fais partie d'une petite TPE. Nous sommes en ce moment en train de travailler avec les Iraniens sur un produit qu'ils fabriquent pour le revendre en Algérie. Donc on s'inquiète un tout petit peu des conséquences du boycott américain. Et au fond de nous, on a déjà demandé aux Iraniens, faites-nous une offre en euros, on ne veut pas travailler avec le dollar. Et réellement, on va quand même continuer le projet jusqu'au bout et j'espère aboutir, quelles que soient les conséquences. Mais ce que je voudrais, c'est que au niveau du gouvernement français, qu'on dise basta, on arrête un petit peu. On va protéger nos entreprises parce qu'il est inacceptable qu'un pays tiers puisse imposer à des sociétés françaises ce qu'elles doivent faire ou pas faire.
Merci Omar de votre témoignage. On va expliquer pourquoi Omar parle de l'euro. Fariba Achtroudi, c'est parce que, en gros, les Américains disent toute entreprise qui fera du commerce avec une entreprise iranienne en mettant du dollar dans le circuit sera une entreprise mise à l'amende. Effectivement, on pourrait se dire autant commercer en euros, sauf que pour l'instant, la géopolitique économique est ce qu'elle est. Le marché mondial se fait en dollars et pas en euros. Et vous nous le disiez, c'est comme à Cuba. Le dollar, c'est l'autre monnaie des Iraniens.
Bien sûr, oui, hélas. Mais justement, là, la législation européenne, si réellement, visiblement, il y a une législation qui est en train de
oui, qui existe. Oui, on appelle ça une loi de blocage.
Exactement, Mais il faudrait réellement que ça fonctionne. Maintenant, est-ce que ça va fonctionner? Je ne suis pas du tout économiste. Oui. Mais effectivement, pour répondre à Omar, moi j'ai proposé à des amis que je connais, des anciens diplomates, et j'ai proposé, je leur ai dit, écoutez, si dites à Monsieur Macron que c'est en ce moment qu'il devrait venir en Iran.
Le voyage est prévu, mais on ne sait pas quand.
Mais bien sûr, exactement.
Jean-Yves Le Drian y était il y a un mois et demi, deux mois.
Totalement, absolument. C'est en ce moment que le président Macron, qui a énormément la sympathie des Iraniens, surtout des jeunes Iraniens.
Ah oui.
Oui. J'ai fait un papier dans Huffington Post et vous voyez, il y a des jeunes qui sont venus en disant « Ah oui, enfin un président jeune, enfin ». Et c'est en ce moment que les Européens devraient montrer leur solidarité avec le peuple iranien. Avec le peuple iranien, en soutenant effectivement les réformateurs iraniens, parce que, encore une fois, le choix du moindre mal. Donc oui, Omar, allez jusqu'au bout, je vous encourage.
Et commercez en euros. On retourne au standard. Bonjour Jacques.
Bonjour.
Soyez le bienvenu, on vous écoute.
Quelle est la place de la société laïque et politique dans l'Iran actuel ?
Merci de votre question, Jacques.
Alors, vaste question, société laïque. Moi, je pense qu'effectivement, la laïcité, la vraie laïcité, arrivera en Iran parce que c'est une laïcité qui viendra de la base vers le haut et pas une laïcité qu'on impose parce que les gens, effectivement, le nombre de personnes en Iran qui se disent laïques et qui le réclament, c'est tous les jours. Et non seulement c'est tous les jours, je veux dire, il y a des gens qui osent le dire dans des... Évidemment, un mot couvert, parce que laïcité en Iran, c'est considéré comme étant anti-religieux.
C'est blasphématoire, quasiment.
Exactement, blasphématoire. Mais néanmoins, vous savez, il y a les lois et il y a la vie de tous les jours. Quand vous allez dans des... pas simplement dans les soirées, mais dans les... Il y a énormément de colloques philosophiques, de colloques pour le lancement d'un livre. Ce qui se dit derrière les tribunes, c'est absolument extraordinaire.
Ça bouillonne.
On n'a pas idée. Ça bouillonne. Et les gens, à demi-mot, disent qu'on ne peut pas. Et d'ailleurs, ils citent une sourate du Coran, « Loh ekraou fe din », veut dire « Vous n'imposez pas la religion par la force ». Donc, vous savez, et ça, les ayatollahs, ou enfin les religieux progressistes, se basent sur cette sourate pour dire on ne peut pas imposer la religion par la force aux gens. Donc, la société iranienne, il y a une grande partie de l'intelligentsia iranienne qui se réclame de la laïcité ouvertement, à demi-mot, dans les livres. Je vais vous donner une anecdote pour comprendre. Il y a un ami, un excellent traducteur qui a traduit Nietzsche, et la censure lui a dit « mais on ne peut pas dire que Dieu est mort ». Vous voyez la censure. Et il a dit « écoutez, vous mettez en bas de page, le Dieu des Occidentaux est mort ». Et c'est passé comme ça. Vous voyez, c'est ça. C'est quand on dit le paradoxe et la subtilité de la pensée de la société iranienne, c'est ça.
Ça se dit laïcité en farsi, ça se traduit littéralement ou pas ?
Non, ils disent secularity, séculaire. Mais effectivement, le mot n'existe pas. Ouais. Le mot n'existe pas en Iran.
Je prolonge la question de Jacques qu'on avait au téléphone avec ce message de Pierre sur franceinter.fr. Est-ce que les femmes iraniennes sont le moteur d'un changement de la société ? On parlait
totalement
tout à l'heure de ces femmes qui tombent le voile.
Absolument.
Et qui se laissent filmer et qui laissent la vidéo diffusée
Absolument.
Sur les réseaux sociaux.
Mais c'est pas simplement ça, vous savez. Alors moi, j'ai un certain âge, on m'embête moins. Moi, je mets pas le foulard. Moi, depuis que je suis rentrée, je ne mets pas le foulard. Et quand on vient m'embêter, d'abord, soit je leur dis c'est pas votre affaire, soit je leur dis écoutez, pardonnez-moi de rentrer dans les détails scatologiques, mais je leur dis d'après votre charia, il y a un mollah qui m'a arrêté. Je dis écoutez, d'abord, mêlez-vous de vos affaires, et secondo, allez appeler les miliciens à la rigueur, je leur répondrai. Et d'après votre charia, une femme ménopausée n'est pas obligée de porter le voile. Alors qu'est-ce que vous m'embêtez avec ce voile ? Mais il y a des jeunes femmes, des très jeunes femmes dans les parcs, dans les rues, qui, alors déjà dans les voitures, les femmes beaucoup de femmes ne portent pas le voile. À telle enseigne qu'il y a un ayatollah, un des barbus dinosaures, qui a dit mais non, il faut absolument, même n'importe dans l'espace public du moment que vous êtes dehors. Et effectivement, mais le voile, c'est symbolique, je ne dis pas que ce n'est pas important, mais ce n'est pas le plus important.
Alors, quel est le
Quand
plus
vous
important
voyez, mais c'est toutes ces femmes dans les ONG qui mènent des combats absolument fantastiques. Il y a celles qu'on connaît, qui sont connues, une dame que je connais, je dois aller d'ailleurs la voir, à Kermanshah, qui est chef d'entreprise et qui se bat pour l'environnement. Il y a des femmes qui se battent pour les droits de femmes, il y a des femmes qui se battent pour les droits des animaux, il y a des femmes... C'est partout, vous voyez, des ONG petites et grandes, menées par des femmes, un combat absolument admirable.
Question de Justine sur franceinter.fr avant de retourner au standard. Après le printemps arabe, pensez-vous qu'un automne perse est possible ? Alors, il faut relativiser, il ne faut pas généraliser. Printemps arabe, automne perse, vous semblez y croire.
Écoutez, printemps arabe, d'abord, ça a commencé avec l'Iran. Il ne faut pas oublier que c'est le
2009
qui a le mouvement vert. Et le mouvement vert est toujours là. Il y a un ami qui dit un mouvement vert rampant. Mais le mouvement vert est la preuve, c'est qu'effectivement, pour la première fois depuis des années, visiblement, la libération sans condition de M. Karoubi et Moussavi...
Deux opposants principaux.
Absolument, qui étaient les leaders du mouvement vert. Mais oui, j'y crois, parce que sans la foi, vous ne pouvez pas tenir dans un pays où, effectivement, il y a autant de dangers, autant de problèmes internes et autant d'agressions externes, j'allais dire. Parce que l'Arabie Saoudite, Israël, c'est les liaisons dangereuses et complètement contre nature de cet axe. Vous voyez, bon, on a beau se dire... je veux pas le dire.
On va retourner au standard. Bonjour, Jean. Est-ce que Jean est en ligne ?
Oui, je suis en ligne.
Bonjour. On vous écoute, Jean, bonjour.
Voilà, j'ai passé 3 semaines en Iran pendant le Ramadan, là, il y a un mois. J'ai été exceptionnellement bien reçu par toute la population. Nous avons voyagé avec mon fils, de la Caspienne à Shiraz. Partout, on a été reçu de façon extrêmement accueillante. Et on a constaté une attente très très forte de la population courante, la population moyenne, les jeunes, etc., vis-à-vis de la France.
Oui, merci de ce témoignage, de cette remarque, Jean.
Mais
c'est exactement ce que vous nous disiez, Fariba Achtroudi.
Absolument. Et je le dis encore, si je peux m'adresser à M. Macron aujourd'hui, grâce à vous, Monsieur le Président, venez en Iran, les gens vous attendent et je pense que symboliquement, c'est extrêmement important que vous soyez en Iran dans les mois qui arrivent.
Il nous reste une petite minute, Fariba Achtroudi. Je vais vous résumer la question de Patricia qui nous attendait au standard. Est-ce que le développement de l'Iran ne peut passer que par le pétrole quand on connaît les problèmes du réchauffement climatique ? Il y a d'autres ressources en Iran ?
Il y a d'autres ressources et surtout, il y a une ressource humaine fabuleuse. Vous n'avez pas
idée. La matière grise ?
Absolument. Il y a des start-up,
les
jeunes Iraniens. Je suis fascinée. Il faut simplement que d'abord, chez nous, ces messieurs comprennent qu'il faut assainir le pouvoir. Ça ne peut pas continuer comme ça. On ne peut pas tout le temps dire l'ennemi extérieur. Et s'ils le font, la population là décollera. Et l'Iran est debout. Le peuple iranien est debout. Quand vous avez dit mettre le régime à genoux, Monsieur Trump veut mettre la population iranienne à genoux.
C'est pas la même
là,
chose.
Là, il n'arrivera pas. Je peux vous dire, il n'y arrivera pas.
Fariba Achtroudi, journaliste, écrivaine iranienne qui reprend l'avion dans très peu de temps pour Téhéran. Merci d'être venue ce matin dans le grand entretien
Merci
de France Inter.
Merci à vous.
Et bonne journée. Merci.